France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura, réalisé par Perret Legras avec Dalia à la prise de son. Ce soir, les coups de gueule d'un recteur. Quel pouvoir a-t-on vraiment quand on exerce des responsabilités à l'éducation nationale? Par exemple, en matière de lutte contre les inégalités et pour la mixité sociale. C'est un des grands sujets de votre livre, Christophe Guerrero. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été notamment recteur de l'Académie de Paris, une académie que vous décrivez comme particulièrement élitiste. Alors, que peut-on faire à l'éducation nationale, donc, avec ou malgré ces ministres successifs, plus ou moins compétents, et malgré les économies sans cesse réclamées par Bercy? Le livre que vous venez de publier s'y attarde longuement. Enfin, comment recruter des enseignants? C'est le problème le plus crucial. Et comment améliorer les pratiques pédagogiques? La question est disputée. Nous en parlerons pendant cet entretien, Christophe Guerrero. Alors, vous avez démissionné en février 2024 et aujourd'hui, vous voulez vous faire entendre sur ce que doit et peut l'école. Premier point, nous vivons dans un pays obsédé par une infime partie de sa population scolaire. Les élèves destinés aux classes préparatoires les plus sélectives, l'élite, les enfants de l'élite, et ça ne vous semble pas normal et à vos yeux, il fallait en reparler.
Absolument, c'est un modèle maintenant ancien, je crois que c'est un modèle perdant-perdant, c'est un modèle perdant pour la société, qui attend beaucoup d'autres choses en termes économiques et en termes sociaux, et c'est un modèle perdant parce que nous faisons un gâchis d'élèves absolument considérable chaque année.
Ce serait qui ces élèves gâchés, par exemple?
Ils sont très nombreux et je pense d'ailleurs, j'ai écrit ce livre en pensant à eux, à tous ces malheureux qui sont au fond de la classe, qui sont dans la cour, qui vont à l'école la peur au ventre. Alors c'est un petit peu autobiographique aussi ce
livre. Oui, j'allais le dire, vous l'avez écrit.
Je l'ai vécu moi-même, j'ai traversé mon collège la première année de la réforme Abi, je l'ai traversé en somnambule et avec cette peur au ventre parce que je ne comprenais pas tout à fait ce qu'on me demandait. Pour autant, j'ai réussi à m'en sortir pas trop mal, mais j'ai toujours eu une terreur rétrospective en regardant ce que je suis devenu et d'où je suis parti. Je me dis à quoi ça tient finalement, et des gosses comme moi, il y en a des centaines de milliers d'autres, ils n'ont pas eu tous la chance d'avoir eu la main tendue, et je crois que c'est l'honneur des fonctionnaires de ce ministère d'essayer d'aller vers plus de repêchage de ces élèves moyens, moyens moins, en difficulté, selon qu'on les appelle.
Ce qui vous serait arrivé, donc, Christophe Guerrero, on comprend à travers cette référence à la réforme Abi que vous avez été collégien en 1977. La réforme Abi, c'est 1975, le collège unique, un grand chambardement ancien, mais dont on parle toujours et encore dans la structure de l'éducation nationale, à un moment où il y a beaucoup plus de collégiens, puis beaucoup plus de lycéens. Ensuite, vous avez été agrégé de lettres, vous êtes devenu enseignant, vous êtes devenu ensuite proviseur adjoint, inspecteur, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et puis recteur de l'Académie de Paris, donc on l'a dit, entre 2020 et 2004. Le titre de votre livre, c'est « L'école n'a pas dit son dernier mot » et « Le coup de gueule d'un recteur qui refuse de baisser les bras », c'est le sous-titre et c'est publié chez Robert Laffont, sorti le 13 mars 2025. Vous en voulez aux politiques, et vous donnez des noms dans ce livre, par exemple celui d'Amélie Oudéa Castéra, et je ne divulgâche rien, c'est tout au début du livre, entre l'éducation nationale et ses ministres, et d'autres politiques d'ailleurs dans d'autres ministères, comme celui de l'économie, il peut y avoir des grandes frictions.
Ce n'est pas un livre contre, c'est un livre pour, un livre pour l'école. J'aime cette école, j'aime les professeurs, ceux qui la font au quotidien, les élèves. Donc je ne veux pas m'enfermer dans les querelles de personne. Bien, je sais que ça intéresse beaucoup les journalistes.
Et c'est au début du livre.
Et bien sûr, j'ai tout dit, je crois, j'ai tout écrit dans le livre pour ce qui est de mes relations avec cet éphémère ministre qui n'a pas marqué les esprits, en tout cas en bien. Donc l'enjeu, c'est plutôt de dire aussi que l'école, c'est un enjeu de société plus que jamais actuel. et qu'il faut impérativement qu'on s'en saisisse et que l'on voit qu'il y a des choses très positives qui s'y passent.
Tout le monde est d'accord. Est-ce que quand on est recteur, je vais poser ma question autrement, on est obligé d'être très diplomate avec des ministres avec qui on n'est pas forcément toujours d'accord sur le fond ou sur la méthode?
On a la liberté qu'on se donne dans tous les postes, quels qu'ils soient, qu'on soit inspecteur, qu'on soit chef d'établissement, qu'on soit inspecteur d'académie ou recteur. On a des marges de manœuvre tout à fait considérables. Simplement, il faut aller au-delà d'une grande passion française qu'est la peur. Beaucoup de gens ont peur. Peur de mal faire, peur d'être jugé, et je pense que si on dépasse cette peur, bon, on arrive à agir. Et le témoignage que j'offre, c'est qu'on peut agir en alignant les personnes, parce qu'il y a des invariants dans la société française et dans l'école qui dépassent les clivages.
Alors, sur Amélie Oudéa-Castéra, vous parlez d'incompétence et de méconnaissance hein, du ministère et de ce que c'est que l'école. On ne va pas revenir sur ces vieilles...
Factuel, elle ne connaissait
pas. Oui, c'est factuel. D'ailleurs, Elisabeth Borne aussi a dit... Alors, je pense que c'est pas du tout la même entrée dans les fonctions pour évidemment Elisabeth Borne, mais elle a précisé qu'elle connaissait pas très bien, qu'elle était pas très compétente en matière d'éducation nationale quand elle est arrivée au ministère. Qui tient la boutique? Est-ce que c'est finalement le ministre ou la ministre? On peut rappeler que beaucoup se sont succédés rue de Grenelle depuis Jean-Michel Blanquer, hein, Pap Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, je l'ai dit, Nicole Belloubet. Je n'ai plus son prénom.
Annie Jeunetet.
Oui, c'est pas Nathalie non plus.
Annie Jeunetet.
Oui, Annie Jeunetet et Elisabeth Borne. Donc ça fait vraiment un aéropage de politique d'ailleurs assez varié. Alors, dans ces cas-là, est-ce que c'est dans les académies que ça se passe, avec les recteurs et les rectrices? Est-ce que c'est à la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, que finalement on mène des actions un peu plus continues pour l'école ou pour continuer un peu des politiques dont on ne sait plus d'ailleurs qui les décide?
L'éducation nationale, c'est une formidable horloge suisse. Hein. Tout est huilé, tout est préparé, pratiquement un an à l'avance. Chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, le politique a bien entendu son mot à dire. Alors, je ne parle pas de la période récente, qui est tout de même exceptionnelle, hein, compte tenu du nombre de ministres. Mais c'est vrai qu'on a vu une alternance, en général, de ministres qui connaissent bien leur sujet, qui sont très techniciens. Hein. On peut penser à Xavier Darcos et à Jean-Michel Blanquer, par exemple, ou Luc Ferry. Et puis, il y a des
plus
politiques.
Payon pour,
ou Vincent Payon, bien sûr. Non, mais vous avez raison, je cherchais...
Je peux partir de l'autre côté de l'échiquier
voilà.
Politique.
Vous avez des ministres qui connaissent vraiment bien, qui sont des passionnés de l'école, qui tutoient la moitié de l'aéropage. Bon, et puis vous avez des ministres plus politiques. Et il y a cette alternance qui ne vous a pas échappé sur les 20-30 dernières années. Et heureusement, il y a une machine derrière qui est au service de ces politiques, qui fonctionne très bien. Et on peut le voir tous les jours, parce qu'il y a quand même un petit miracle du quotidien, que chaque jour, il y a... un professeur devant ses élèves, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Mais l'éducation nationale, en France, c'est quand même un objet politique particulier, singulier, mais aussi un objet qui fait peur aux politiques. Je l'ai constaté, ça fait peur. Il y a un chapitre qui s'appelle « La grosse bête qui fait peur », parce que on ne sait pas trop comment les professeurs vont réagir, on ne sait pas trop comment l'opinion va réagir. Donc, il faut apprivoiser l'éducation nationale, et je pense qu'on ne parle pas suffisamment, malgré tout, d'école, sauf en dehors de votre émission.
Ah bah, nous, on en parle énormément,
J'ai remarqué, dans mes fonctions dernières, que le politique se détournait un peu de l'école, qu'il n'y avait plus de réflexion comme naguère sur l'école. Et je pense que ce livre est d'abord une invitation au débat, à reparler des grands sujets de l'école.
Plus de réflexion. Et pourtant, c'est un sujet dont Emmanuel Macron parle très, très souvent. On va revenir aux enseignants un peu plus tard dans l'émission. C'est pour moi un chapitre extrêmement important. On va revenir sur leur salaire, sur les questions de recrutement et peut-être sur leur mécontentement, hein, dont on se fait très très souvent l'écho dans cette émission avec de nombreux témoignages. On invite des enseignants, évidemment. D'ailleurs, vous avez été enseignant, mais c'est pas à ce titre-là évidemment que vous venez, Christophe Querrero. Alors, les coups de gueule d'un recteur, c'est aussi pour parler de cette démission. Donc, en février 2024, vous quitter ce poste, qui est un très beau poste, hein, recteur de l'Académie de Paris. C'est pas une très très grande académie, c'est pas beaucoup d'élèves, mais c'est très prestigieux. Vous êtes beaucoup au rectorat dans le 19e arrondissement et aussi beaucoup en Sorbonne, avec un amphithéâtre très majestueux, où se tiennent des grands événements. Par exemple, la réunion annuelle de tous les recteurs, réunion à laquelle Emmanuel Macron a lui-même tenu à participer assez récemment. Et vous démissionnez pour une histoire que vous allez nous raconter, qui a trait à la mixité sociale dans les classes préparatoires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a autant dégénéré? Vous vouliez ouvrir le recrutement des classes préparatoires parisiennes, qui sont parmi les plus prestigieuses. Il n'y a pas que Paris en France, hein, évidemment, mais il y a des classes préparatoires prestigieuses à Paris. Ça veut dire que beaucoup de leurs élèves intègrent ce qu'on appelle les grandes écoles. Et il y a un vrai problème de recrutement social.
Exactement. Quand je suis arrivé à Paris en 2020, tout le monde m'a rappelé que c'était l'académie la plus ségrégée de France. Et donc, toute mon action, en fait, parce qu'un recteur, ça essaye de coller à son académie, à essayer de résoudre les problèmes qui sont soulevés dans son académie. Et c'est vrai que là, il y avait un sujet autour de l'affectation des élèves en seconde, autour de la hiérarchie des lycées.
Ségrégé, c'est les riches d'un côté, les pauvres de l'autre.
Exactement. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, on m'a montré une hiérarchie des lycées, un lycée du centre de Paris tout en haut avec les meilleurs élèves des CSP les plus favorisés, et puis tout en bas un lycée de l'est, du nord-est parisien avec très peu d'élèves issus de catégories favorisées. Bon, c'était choquant. Pour tout républicain, c'est choquant de voir ça. Donc il fallait s'y atteler. Donc on a mis en place la réforme de l'affectation en seconde, acte 1. Acte 2, la symbolique autour de Louis le Grand et d'Henri IV, des lycées d'excellence qui font perdre la tête de certains, j'ai voulu les faire rentrer un peu dans le droit commun, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la procédure d'affectation.
Donc eux aussi, par exemple, accueillent des lycéens boursiers que ce qui,
absolument.
Qui, alors, basé évidemment sur les notes, parce que ça rigole pas trop sur le niveau scolaire.
On n'a pas touché à l'excellence académique de ces deux établissements. En revanche, on a souhaité qu'ils soient plus représentatifs des collégiens parisiens. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était beaucoup de collégiens du centre de Paris, du 5e arrondissement pour Henri IV, ou des collèges extrêmement extrêmement
chics. Louis-le-Grand, c'est pas très très loin d'Henri IV, du reste.
Mais c'est vraiment un tout petit peu, c'est traditionnellement un tout petit peu plus ouvert
à quelques centaines de mètres.
Mais pour bien préciser, on a réussi à doubler le nombre de boursiers. Et en même temps, on n'a pas du tout dégradé la qualité des élèves, puisque on a même augmenté le niveau en mathématiques des élèves qui sont entrés. Simplement, il y a eu des élèves de REP+ qui sont entrés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.
La qualité des élèves, déjà, oui, c'est vraiment un terme. Hein.
Mais c'est quand même quelque chose qu'on entend, contre lequel il faut précisément argumenter, parce que il y a à Paris cette idée de hiérarchie à tous les étages, et puis cette perspective de la montagne Sainte-Geneviève tout en haut de la hiérarchie des lycées.
Alors, pour dire à tous nos auditeurs, dont on espère qu'ils ne vivent pas tous en région parisienne, dont on espère qu'ils ne sont pas tous issus des classes préparatoires, évidemment, et qu'ils ne connaissent pas forcément bien ces établissements, en fait, oui, ce sont des lycées très élitistes, ce sont aussi des établissements qui abritent des classes prépa, dont sortent un certain nombre d'hommes politiques, de femmes politiques, de gens qui vont par exemple faire Sciences Po ou l'ENA. Emmanuel Macron a fréquenté la classe préparatoire de Henri IV. En fait, c'est très symbolique.
C'est très symbolique.
Et toute la logique aussi d'un fonctionnement d'école républicaine,
Oui, mais toute la logique, c'était d'ouvrir donc les lycées, de mettre plus de mixité sociale et scolaire. On l'a fait, donc en 2 ans. Il y a eu des résultats qui sont avérés par des chercheurs. 50% de plus de mixité sociale et scolaire. Donc on a réussi ça, on a réussi la bataille de la montagne Sainte-Geneviève, d'une certaine façon, sans dégrader, au contraire, le niveau académique. La dernière étape, de mon point de vue, dans mon mandat, c'était les classes préparatoires. Non que les classes préparatoires ne soient pas un bon modèle. C'est un modèle qui fonctionne bien.
C'est discuté, hein.
Oui, mais c'est vrai que...
C'est un modèle qui coûte cher.
Voilà. Mais il y a un certain nombre de sujets. Le fait qu'ils ne sont pas, elles ne sont pas suffisamment représentatives, là encore, de toutes les catégories sociales. Donc elles sont parfois trop uniformes et trop uniformes avec des élèves issus de CSP très favorisés. Et puis elles coûtent cher, hein, 17 000 euros par an, et elles ne sont pas toujours remplies, contrairement à ce qu'on lit ici et là. Elles ne sont pas toujours remplies, elles n'ont pas non plus toujours l'utilité sociale attendue. Moi j'étais tout de même très surpris à Paris de voir qu'à l'école normale supérieure, il n'y avait plus du tout de professeurs qui sortaient de cette école. Alors que c'est quand même normalement une école de professeurs. J'étais quand même aussi surpris de voir que
formés à l'école normale supérieure dans...
En tout cas, ils ne se destinent plus à l'enseignement. Même l'enseignement dans le supérieur.
Alors c'est pour ça qu'on
une utilité sociale quand même discutable, parce que ce sont des élèves issus de milieux très favorisés, les études sont gratuites, on les paye, et en plus, il n'y a pas de retour sur investissement pour l'État d'une certaine façon, puisqu'ils ne deviennent pas professeurs. Mais c'est la même chose avec les écoles d'ingénieurs. Combien vont à Londres, à la City, plutôt que de servir le modèle économique français. Et Dieu sait si on a besoin d'ingénieurs. Donc, en fait, c'était très modeste, hein. C'était une évolution à la marge, dans des classes préparatoires un peu caricaturales. C'est-à-dire notamment, je pense, au lycée Lamartine, où il y avait une classe avec des élèves à un IPS de plus de 140. On ne peut pas dire que c'était classe
l'IPS,
sociale.
J'en profite pour dire plusieurs choses. L'IPS, c'est l'indice de position sociale. Pendant très longtemps, on n'a pas connu ces IPS. Et à la suite d'une demande d'un journaliste de la Gazette des communes, Alexandre Lechenay, qu'ils ont été rendus publics, ces fameux IPS, pour les lycées, puis pour les collèges, en 2021. Et là, on a pu constater, tous, les différences abyssales, dont on s'était bien un peu aperçu, mais c'est toujours mieux avec des chiffres. Donc, un IPS bas, ça va être 80, par là. Un IPS très élevé, 140, vous venez de le dire. J'en profite pour donner une autre précision. 17 000 euros, c'est le coût d'un lycéen de classe préparatoire par an. Quand on est à l'université, c'est environ 10 000 euros,
exactement,
d'après les chiffres que je connais.
Il faut absolument que ce soit très utile pour la société, ces classes préparatoires, et puis qu'elles soient utilisées au maximum de leurs capacités. Et donc, on avait décidé de transformer 4 classes, des classes où il y avait une homogénéité trop importante de CSP favorisés, et des classes qui n'étaient pas suffisamment remplies. Et pour les transformer, notamment en classes préparatoires au professorat des écoles, une implantée à Henri IV, et puis d'autres expériences, notamment à Chaptal, pour accueillir des lycéens professionnels pour en faire des ingénieurs, de futurs ingénieurs. Parce que le modèle des classes préparatoires, il n'est pas mauvais du tout. C'est-à-dire qu'on travaille, et nous avions la possibilité de financer sur 3 ans, donc d'entraîner les élèves avec les fameuses colles orales. Donc c'est un bon modèle pour des élèves un peu plus moyens, peut-être, qui sont un peu plus loin de la chose scolaire que ceux qui y vont habituellement et qui sont issus de classes plus défavorisées. Donc c'était ça, 4 classes préparatoires qu'on transformait. Il ne s'agissait pas de suppression, il s'agissait de les transformer. Et c'est là-dessus que j'ai été déjugé. Alors que ça avait été arbitré d'ailleurs par Gabriel Attal et par la ministre de l'Enseignement supérieur quelques semaines plus tôt.
Donc déjugé par Amélie Oudéa Castéra. D'ailleurs, vous aviez peut-être été un peu fragilisé par cette histoire d'ouverture sociale dès le lycée, puisque à cette époque, donc quelques mois avant, c'était déjà remonté jusqu'à l'Élysée. Alors, et vous avez eu des petits coups de fil.
En tout cas, pas fragilisé, en tout cas, par la base, si j'ose dire, hein, puisque il y avait quand même une équipe.
Non, mais ça,
équipe,
doit faire, bizarre quand avait, on a un coup de fil de la conseillère d'Emmanuel Macron. Un texto.
Un texto,
oui, qui me dit qui vous demande si vous êtes bien sûr de vouloir continuer.
Bien sûr, mais écoutez, là encore, hein, j'ai dit que, bien entendu, si le chef de l'État voulait arrêter, c'était son droit le plus strict, mais ce ne serait pas avec moi comme recteur.
À quelques semaines d'une élection, donc bon, finalement, ça a pu se poursuivre. Et arrive un moment assez paradoxal dans mon questionnement, c'est-à-dire qu'à la fois, on se demande pourquoi on porte autant d'attention à si peu d'élèves, on parle d'une poignée de personnes, il y a plus de 12 millions d'élèves en France, de la maternelle à la terminale. On s'intéresse à très peu de gens dans un périmètre géographique très restreint. Et c'est exactement ce que je viens de faire, parce que finalement, ça a mobilisé l'attention des médias. C'est par ça que commence le livre, mais vous parlez de bien d'autres choses. Christophe Guerrero, finalement, oui, c'est peut-être intéressant de diversifier à la marge un petit peu l'élite républicaine scolaire. Mais la vraie question, c'est celle de tous nos élèves d'école élémentaire, dont on attend de meilleurs résultats en lecture, en mathématiques. Vous prenez l'avènement d'une école plus moyenne, alors pas une école médiocre, mais une école qui s'intéresserait plus aux élèves, aux tout venant des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Christophe Guerrero ?
Vous avez tout à fait raison. Il faut pas, même si les symboles sont importants, particulièrement dans notre pays, on ne parle là que d'une minimum d'élèves, mais c'est important tout de même d'en parler, puisque le sentiment que partagent nos concitoyens, c'est qu'il y a tout de même une élite qui tourne sur elle-même. Et que l'enjeu, c'est malgré tout d'ouvrir l'assiette de l'élite en France. C'est vrai qu'il... Enfin, l'école française, elle s'est construite pour l'effort en maths et pour l'effort en thème. C'est d'abord
mais
pour eux.
Mais on peut se demander si c'est l'enjeu, si ça capte pas une grande partie de notre énergie.
Ça ne marche plus, ce système-là. Mmh. Ça ne marche même plus pour les très bons élèves eux-mêmes, puisqu'on n'en a plus que 3% contre 9% en moyenne dans l'Union européenne et près de 50% à Singapour. Donc ça ne fonctionne même plus pour produire, justement, une élite importante aujourd'hui. Et cette élite, elle se reproduit elle-même. Tout simplement parce que le système, et c'est pourquoi on parlait tout à l'heure du collège unique, il a été créé sur la base du petit lycée. C'est-à-dire que on n'est pas monté à partir de l'école de Jules Ferry, une école pour tous, mais on a plutôt aligné le collège unique sur le lycée tel qu'il existait jusqu'au début de la Ve République. Et c'est tout de même assez aberrant de vouloir, au moment où on veut démocratiser l'école, c'est-à-dire l'ouvrir à tous, d'être uniquement dans des raisonnements abstraits et dans des transmissions abstraites, dans des savoirs abstraits et académiques. Et je crois que c'est là que le bât blesse. C'est parce que notre école, elle est faite pour des élèves qui ont soit chez eux l'accompagnement culturel nécessaire, soit qui ont en eux les ressorts pour suivre, quelles que soient leurs conditions.
C'est ce que montrent les statistiques. Mais est-ce qu'il n'est pas là le paradoxe républicain ? Parce que croire que l'héritage républicain, c'est l'égalité. Quand on parle d'éducation, ça peut être un contresens. Finalement, la Révolution française crée des grandes écoles. Alors, il y en avait déjà avant, des grandes écoles militaires, mais la Révolution continue cette œuvre. Que va prolonger le 19e siècle au moment où Guizot crée un peu l'école pour tous. On crée aussi des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles très élitistes. C'est une tradition hyper ancrée en France. On en parle moins, mais finalement, nous sommes pleinement les héritiers de cette tradition. On se cache un peu derrière le mot républicain pour dire, oui, on aime l'égalité, mais est-ce que l'école française aime l'égalité ?
On est les héritiers d'un système à la fois jacobin et élitiste. C'était l'idée qu'une toute petite élite extrêmement bien formée peut faire tourner le pays, que ce soit économiquement, politiquement, socialement. Je dirais que ce modèle-là, il n'a pas si mal marché, de la monarchie jusque au gaullisme, en gros. Hein. C'est ce que j'appelle la France de l'ingénieur Bertin. Vous savez, celui qui a fondé l'aérotrain. Il y avait des ingénieurs extrêmement capés, qui ont fait le Concorde, qui ont fait les Mirages. Il y avait des politiques qui étaient reconnus, responsables, normaliens, des intellectuels parfois. Et puis de toute façon, il y avait la promesse républicaine pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, même si on ne passait pas par l'école, on progressait. Ce système-là, il n'existe plus aujourd'hui. Et paradoxalement, on a mis en place l'ouverture de l'école au moment où il y a eu les grandes crises qui ont fragilisé le système.
Je peux vous poser une question un peu plus personnelle, Christophe Guerrero. Enfin, de toute façon, je vous la pose, vous qui poussez des coups de gueule sur l'état de l'école, qui attendait beaucoup hein, de l'État pour porter une école plus égalitaire. Vous avez été membre du conseil scientifique d'un think tank qui s'appelle l'IFRAP. L'IFRAP est en général, moi, tel que j'entends les prises de parole de sa porte-parole, justement, Agnès Verdier-Molinier, pour la réduction de toutes les dépenses publiques, et pour la réduction des services publics en général, l'école, bah, c'est un service public, celui de l'éducation nationale. Elle a peut-être besoin, d'ailleurs, des autres services publics, par exemple, celui de la petite enfance, de la santé, de la culture. L'école a besoin que les enfants aient accès à la culture. Alors, que faisiez-vous à l'IFRAP ?
Quand on est dans des positions de conseiller ministériel, c'était déjà le cas à l'époque, quand on réfléchit à l'école, on est approché par toutes sortes de personnes, d'obédiences différentes, des think tanks. C'est vrai que j'ai participé à celui-ci, je ne vais pas me renier, mais ça ne veut pas dire, quand on participe à un think tank, qu'on est d'accord avec tout ce qu'il promeut. Moi, j'ai toujours été ce que j'appelle un gaulliste social. J'ai toujours considéré que la cause de l'école passait par l'État, par l'éducation nationale. Il n'empêche qu'il faut aussi réfléchir à toutes sortes de problématiques. Tout n'est pas parfait. Il faut réfléchir aussi à la façon dont on peut faire progresser une administration comme la nôtre, qui n'est pas idéale non plus. Hein, je veux dire, on a le droit de remettre en cause un certain nombre de choses sans pour autant être un ultra-libéral, si vous voulez.
Alors, est-ce qu'il faut plus de moyens pour l'école, par exemple ?
Il faut de l'investissement. Il faut
de l'investissement. Pour l'éducation prioritaire ?
Là encore, on a un peu fait les choses à l'envers, mais c'est l'histoire qui nous le... Enfin, on est l'héritier de notre histoire, c'est-à-dire qu'on met traditionnellement énormément de moyens sur le lycée, sur le secondaire, mais plus sur le lycée que sur le collège, et beaucoup moins à l'école primaire. C'était un peu insensé, puisque le bon sens voudrait qu'on investisse beaucoup plus sur les premières années de la vie. C'est quand même ce qui a été fait depuis une dizaine d'années. On met plus d'argent dans le premier degré, et c'est tout à fait nécessaire.
Alors la tendance n'est pas complètement inversée, mais...
Ben, elle va dans le bon sens. Malgré tout, depuis, je vous dis, une dizaine d'années, il y a 2 élèves en moins par classe en moyenne dans le premier degré. Ce que nous avons fait avec Jean-Michel Blanquer sur le dédoublement des grandes sections, des CP, des CE1,
dans
l'éducation prioritaire, et la limite à 24 dans les autres, hors éducation prioritaire, grandes sections, CP, CE1, ça va quand même dans ce sens-là. C'est un investissement considérable. Il faut sans doute aller plus loin, bien entendu. Mais, encore une fois, c'est vrai que le lycée français est traditionnellement très bien doté, et quand on voit les comparaisons internationales, on s'en rend compte immédiatement.
France Culture. Être et savoir. Louise Touré.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quel quelque chose dans l'air à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France.
Ma France, Jean Ferrat, la chanson date de 1969. On avait référence à De Gaulle, Christophe Guerrero. Vous êtes l'invité d'Être et Savoir pour parler de votre vision de l'école. Vous qui avez été recteur de Paris, qui aspirait peut-être à d'autres fonctions. On va peut-être le dire aussi ce soir. Jean Ferrat, c'était un communiste. Il y a de nombreuses références dans cette chanson qui me semble être plutôt de gauche. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte ?
Cette chanson, c'est la France, c'est toute la France, et la France, c'est ce que j'aime par-dessus tout.
Très émouvant texte de Jean Ferrat, c'est vrai. On va parler de l'actualité, si vous voulez bien, Christophe Guerrero. Après les révélations concernant le pensionnat de Bétarame dans les Pyrénées, puis d'autres établissements en France, plutôt des pensionnats catholiques, des cas en Bretagne, des cas dans l'Est, un plan de lutte a été annoncé, un plan de lutte contre les violences physiques, morales et sexuelle, annoncée donc par Elisabeth Borne. Pour l'instant, il s'agit d'envoyer des questionnaires dans les établissements catholiques, par exemple, plusieurs fois dans l'année ou après des voyages scolaires. Est-ce que cette culture de la violence actuelle, mais surtout ancienne, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ? Aujourd'hui, on s'interroge sur le rôle des recteurs dans les décennies passées face à l'enseignement catholique. Il y a des pensionnats catholiques à Paris, il y a des grands lycées catholiques comme Stanislas.
Il faut sans doute remettre ça dans un contexte plus général. Je pense qu'il y a une libération de la parole qui s'opère depuis quelques années. C'est un progrès démocratique. Il y avait des choses qui ne se disaient pas, qui n'étaient pas audibles, qu'on n'entendait pas et qui n'étaient donc pas de ce fait dénoncées. Moi, je ne peux vous livrer que mon expérience. J'ai vu, lorsque j'étais en cabinet, un certain nombre de dérives de nature communautariste ou sectaire, notamment dans le hors-contrat. On y a réagi parce qu'on a été mis au courant de ce qui se passait. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas tout à fait à l'étiage, donc on a mis en place des séries, il y a eu une loi, et puis oui. Il y a eu des inspections. J'ai vécu l'affaire Stanislas, j'étais recteur lorsqu'il y a eu ces révélations. Et là aussi, on s'est aperçu qu'on n'avait pas vu. Pourtant, il y avait eu des inspections pédagogiques, régionales, disciplinaires à Stanislas, de très nombreuses.
Alors, Stanislas, mais on n'avait pas tout vu. Établissement du 6e arrondissement, extrêmement bien financé aussi par la région Île-de-France, puisque la région finance les lycées.
Un établissement sous contrat, donc financé par les collectivités, la ville, la région.
Et où les élèves pouvaient entendre des tas de choses pas très catholiques, si je peux me permettre l'expression.
Mais si personne ne le dénonce, on ne peut pas le savoir.
Mais parfois, les gens parlent et on ne les écoute pas.
Quand il s'agit de violence, vraiment, honnêtement, tout le monde réagit. Enfin, en tout cas, un responsable, il réagit immédiatement. Je pense simplement que la parole, elle met du temps à s'y bien. Vous voyez,
plusieurs
décennies.
On le voit à Bayonne. On ne sait pas exactement ce qu'avait entendu le Premier ministre ou non, mais on peut s'imaginer qu'un certain nombre de personnalités politiques des Pyrénées étaient au courant, avaient entendu parler de faits de violence à Bétarame. Alors, je parle au conditionnel, mais on sait très bien, tous les gens, et ça m'arrive de passer dans les Pyrénées, on sait très bien que c'était un établissement où il y avait des violences. Donc, il y a une manière d'écouter quand on entend.
J'entends les témoignages comme vous, hein, sur la radio, à la télévision, et ces témoignages sont accablants. Je crois malgré tout qu'il y a une prise de conscience collective qui va dans le bon sens, mais c'est la même chose avec la libération de la parole des femmes et MeToo. C'est des questions des choses ressortent beaucoup plus qu'il y a quelques années désormais, et on y réagit. Alors on peut dire qu'on est en décalage, mais mieux vaut tard que jamais.
Je vais vous poser une question technique sur l'éducation nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette justement entre le scolaire et le périscolaire, particulièrement quand on parle de pensionnat? Finalement, qui contrôle le temps du soir, le temps de la nuit? Est-ce que là, on manque pas justement d'instances pour bien vérifier que les choses soient carrées, que les familles aient éventuellement des recours quand on n'est plus vraiment à l'école, mais surveillé par d'autres gens?
Il y a la même chose sur jeunesse et sport, enfin tout ce qui est encadrement de mineurs. Il y a des contrôles qui sont effectués. On peut toujours faire mieux. Je crois que là maintenant, la prise de conscience est telle que les choses qui terribles, hein, parce qu'on pense quand même aux centaines de victimes de cette affaire, ne pourraient plus arriver aujourd'hui.
À voir. On ne sait pas quelles révélations pourront être faites. Il y a quand même des faits assez récents concernant l'école donc et le pensionnat de Bétaram. On va continuer un tout petit peu sur l'école privée, mais vous en parlez dans le livre, Christophe Kerrero. L'école n'a pas dit son dernier mot. C'est publié chez Robert Laffont. Je reçois aujourd'hui un communiqué de presse, j'en reçois très souvent, c'est sur une école internationale bilingue, le IB, qui ouvre une nouvelle école au Trocadéro. Les frais de scolarité sont démentiels, environ 1000 euros par mois. Je ne suis pas spécialement intéressée, mais je sais que ce groupe d'écoles est détenu par un fonds d'investissement qui s'appelle Edu Global, enfin je ne sais pas si je dis bien le nom, Global Educate, pardon, c'est un groupe espagnol, et que c'est un groupe à but lucratif, et que certaines écoles sont sous contrat, donc j'en viens à mon point, et que ces écoles sous contrat, eh bien elles reçoivent forcément de l'argent de l'État, puisque l'État paye les professeurs. Alors comment on fait avec cette réalité? Et on parlait d'élitisme et de sélection, ça fait aussi partie du même sujet. Donc des écoles qui facturent très cher, il y a aussi par exemple l'école Jeannine Manuel, bon je parle de Paris, il peut y en avoir évidemment en province. Il y en a une à Lille d'ailleurs, Marc-en-Barœul, qui fait payer les élèves très très cher et qui reçoit des fonds de l'État. Est-ce que c'est normal quand on facture plus de 10 000 euros l'année?
Alors, la liberté de choix des familles, elle est très importante. Il faut la respecter. Moi-même, j'ai été rattrapé hein, par une école privée sous contrat, non catholique. C'est vrai qu'il y a une évolution du sous-contrat, particulièrement dans les villes comme Paris, avec des parents d'élèves qui demandent de plus en plus de services. Hein. C'est un peu nouveau, hein, l'enseignement privé catholique. Il y avait une grande tradition de récupérer des élèves en échec autrefois. Donc, il y a une évolution aujourd'hui avec une espèce de concurrence qui est très délétère pour l'ensemble du système.
Est-ce qu'on doit financer des écoles avec de l'argent public si elles facturent plus de 10 000 euros de frais de scolarité par an, Christophe Kerrero?
En tout cas, ça interroge beaucoup, c'est certain. Il faut avoir ce débat. En tout cas, moi, quand j'étais à Paris, j'avais demandé que quand on retirait des emplois dans le public, on en retire également dans le privé. Parce que il peut y avoir une concurrence. D'ailleurs, on avait mis en place avec la ville des écoles bilingues pour pouvoir justement concurrencer hein, les écoles privées sous contrat ou hors contrat qui apportaient du bilinguisme dans les quartiers favorisés. Mais on avait aussi mis en éducation prioritaire. Mais encore faut-il se battre à armes égales. Et donc, si on ne retire pas le même nombre d'emplois dans le privé que dans le public, il y a un déséquilibre qui se crée. Et Julien Grenet dit qu'à terme, il y aurait plus d'écoles privées que d'écoles publiques.
Plus d'élèves dans le privé. Julien Grenet est économiste à l'École d'économie de Paris. Et il vous a accompagné lors de cette procédure à Felnet, dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Donc, procédure d'affectation dans les lycées.
Maintenant, ce sur quoi c'est le séparatisme. Quelle école nous voulons ? Est-ce que nous voulons des publics qui ne se voient jamais, alors qu'on sait très bien qu'ils vont finir par travailler ensemble, tous ces élèves, dans la société ? Donc ne faut-il pas mieux réfléchir à une meilleure cohésion, surtout dans des villes comme Paris, où on est toujours il n'y a pas de problème de transport, on peut se déplacer très librement, très rapidement. Moi je milite bien entendu pour qu'il y ait beaucoup plus de rapprochement entre ces publics, et je milite pour une école publique de grande qualité qui attire tous les élèves et leurs parents.
Donc avec plus de moyens, enfin, ça fait partie de ce que les recteurs décident. Ce métier de recteur, il est très très particulier. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment même, en mars 2025. Donc, nomination de 12 recteurs.
Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de mouvement de recteurs.
Mais ça a beaucoup changé, les recteurs. Un peu changé. En tout cas, avant, il fallait absolument avoir exercé de grandes fonctions universitaires. C'est pas votre cas, Christophe Guerrero. Donc, vous avez bénéficié aussi d'une ouverture, une forme d'ouverture sociale,
oui,
peut-être.
Je suis reconnaissant au ministre et au président.
Par exemple, la personne qui succède à Bernard Beignet, celui qui vous a succédé à Paris, Julie Benetti, elle est agrégée de droit public. Elle, c'est vraiment un pur produit de l'université, avec elle a des grandes fonctions dans son CV. Qu'est-ce que ça produit sur l'école, le fait que les recteurs et rectrices viennent complètement de l'université et pas trop, par exemple, du professorat et de la direction d'établissement?
C'est un sujet très français, là encore. Vous savez, j'étais conseiller de Luc Châtel, qui connaissait pas bien l'école, mais qui était DRH. Et donc, on avait des discussions, souvent dans les transports, quand on se rendait dans les écoles. Et il me disait, c'est quand même bizarre, là, votre truc. Les inspecteurs d'académie ne peuvent pas devenir recteurs. Et pourquoi ? Alors je lui explique un petit peu. Et c'est vrai que c'est quand même surprenant qu'un inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis ne puisse pas devenir recteur d'une académie comme Limoges, qui est deux fois plus petite. Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est possible. D'ailleurs, Daniel Overlot a été inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis et recteur de Limoges. Si vous voulez, on ne peut pas rester dans une logique de caste aristocratique à aucun moment en démocratie. Et donc, il faut que ce soit possible pour tout professeur du primaire, du secondaire, de se dire « c'est possible pour moi d'avoir les plus hautes fonctions dans ma maison ». S'il y a un plafond de verre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en démocratie.
Et que pensez-vous du fait qu'une ancienne rectrice comme Charline Avenel, qui était à Créteil, une énorme académie, soit allée ensuite travailler, elle ne travaille plus, chez Ionis, un groupe d'écoles du supérieur privé à but lucratif?
Chacun fait sa carrière comme il veut. Il y a plusieurs types de hauts fonctionnaires, notamment à Bercy, qui font des allers-retours entre le public et le privé.
C'est assez nouveau ce qu'on appelle le pantouflage dans l'éducation nationale.
Ça ne veut pas dire qu'on va être un mauvais haut fonctionnaire pour autant.
Alors, on parle un peu de Paris, qui est une académie très particulière, avec un statut dérogatoire des directeurs d'école qui n'ont pas de classe à charge, quelle que soit la taille de l'école, qui exerce pleinement la direction. Paris aussi, on ferme énormément de classes, parce que la démographie change. Où on a fermé aussi certains lycées, parce que là aussi.
Oui, mais pas pour des raisons, c'est pas la même chose.
Mais pour plus des raisons de regroupement.
C'était de véritables ghettos scolaires, et nous avons voulu, avec la présidente de région Vallée-Pécresse, redonner de la perspective à des élèves qui étaient dans des endroits tout à fait indignes où on ne mettrait pas ses propres enfants.
Et concernant les fermetures de classes, est-ce qu'on pourrait pas profiter, tous les quartiers ne sont pas privilégiés à Paris, de cette baisse démographique pour justement avoir des classes moins chargées, puisqu'on sait que ça marche. C'est un des rares trucs qui marche pour augmenter le niveau scolaire.
Au niveau national, je le dis, je l'écris dans le livre, il est certain qu'à mon sens, il faut profiter de la baisse démographique pour arriver à l'étiage de l'OCDE, c'est-à-dire encore 2 élèves en moins par classe en moyenne. Je pense que ce serait de bonnes politiques que d'aller là-dessus. Alors Paris n'est pas la ville la plus maltraitée en termes de taux d'encadrement, puisqu'elle doit avoir un taux d'encadrement similaire à ce qu'il y a dans l'Aveyron ou en Lozère, ou même en Corse. Et encore une fois, il faut pas figer les cartes, il faut pouvoir se donner un peu de souplesse, et parfois il faut fermer, c'est pas non plus on va pas enseigner quand il y a 3 élèves dans une classe.
C'est pas 3 élèves en général, c'est un peu plus quand on parle d'enseignants mobilisés.
Mais j'ai fermé moi-même des classes, donc je l'honnêteté veut que je dise que ça existe, il faut parfois le faire. Mais je crois qu'il faut profiter de ce moment de baisse démographique, qui n'est pas une bonne nouvelle pour le pays, mais au moins, à quelque chose malheur et bon, on pourrait en profiter pour investir davantage dans le premier degré et permettre des baisses encore de nombre d'élèves par classe.
Alors oui, baisse démographique, alors à Paris c'est très particulier, c'est vraiment une académie qui perd aussi du fait du prix de l'immobilier. Parlons plus généralement de l'enseignement en France, comment trouver des enseignants? Vous parlez du salaire et vous parlez même de votre propre salaire quand vous avez commencé à enseigner. Alors ce qu'on sait, c'est que dans les années 80, un enseignant en début de carrière gagnait plus de 2 fois le SMIC, et maintenant c'est presque au SMIC, en fait. Ça, ce sont les économistes qui le disent. Et que ça ne permet pas de se loger si on vit dans une grande ville, par exemple. Ça ne permet pas d'être autonome financièrement si on se sépare et qu'on a des enfants. Ça ne permet pas de vivre de son travail enseignant en France. En tout cas, pas comme avant, Christophe Quéréau, pas en début de carrière. C'est pas le problème majeur à régler, parce qu'on a besoin d'enseignants dans nos classes.
Ah, mais je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a un consensus sur le fait que le traitement des professeurs en France, il est inférieur à la moyenne des autres professeurs de l'OCDE.
Consensus, mais le problème, ensuite, ça fait longtemps qu'on en parle et longtemps qu'il n'est pas résolu.
Et on a un vrai sujet, vous l'avez souligné, d'attractivité qui devra se résoudre en partie par une hausse des traitements, mais pas seulement, parce que l'Allemagne paye très bien ses professeurs, la Suisse aussi, et il y a tout de même des problèmes d'attractivité. Donc c'est pas la seule condition. C'est une condition, mais ce n'est pas la seule. Moi, il me semble qu'il faut s'interroger. Nos professeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent en gros quand on les écoute? Ils nous disent qu'ils sont seuls, qui sont isolés, qui se sentent un peu abandonnés par l'arrière, entre guillemets, qui seraient les parents, la société en général, qui met tout sur le dos de l'école.
Et l'éducation nationale, un peu parfois, c'était ce qu'on entendait pendant le mouvement Pas de Vague.
La propre hiérarchie, vous voulez dire, de l'éducation nationale, peut-être. En tout cas, il s'estime abandonné et seul. Ça, c'est une réalité. C'est ainsi qu'ils se ressentent. Je crois qu'il faut l'entendre. Et il me semble, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi quelque chose que j'écris dans le livre, que on ne parle pas assez pédagogie. En fait, on s'arrête toujours à l'entrée de la classe dans cette maison. On ne veut pas parler de pédagogie. Or, c'est tout de même l'essentiel. C'est ce qui devrait nous animer collectivement. Et là, j'en viens aussi à une des difficultés, c'est que la formation initiale et la formation continue ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui dans notre pays.
Et vous parlez dans le livre de la période Sarkozy, pendant laquelle on a supprimé la formation initiale pour en gros réalisé des économies très conséquentes de postes, mais ça n'a marché qu'une seule année, hein,
c'est un one shot.
Aussi, c'est ce que vous écrivez, Christophe Quereros, qui a repoussé aussi l'entrée dans le métier, donc des professeurs formés plus longtemps, mais finalement moins expérimentés, ça a laissé des traces, et ça a aussi fait baisser le nombre de candidats.
Il faut désormais revoir la formation initiale, revoir nos viviers, aller chercher des publics différents, hein, l'école de Jules Ferry, aller chercher des enfants de paysans pour devenir instituteur. Il faut qu'il y ait une sorte de promotion sociale, que ça fasse sens à un certain nombre de publics, que ce soit en banlieue, dans la ruralité. Il faut recruter plus tôt. Parce que c'est vrai que recruter au niveau d'un master, eh ben ça élimine un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas les moyens de financer leurs études. Et puis, il faut diversifier les voies. Il y a aussi des secondes carrières qu'il faut assumer. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on refaisait passer les concours à des secondes carrières, par exemple. Je pense qu'on pourrait les mettre en situation et les titulariser à terme.
C'est ce qui se passe beaucoup avec les professeurs vacataires.
Pas toujours. Donc il faut absolument revoir cela si on veut avoir beaucoup plus d'enseignants. Et puis il faut redonner du sens au métier. Il faut aussi arrêter de dire que l'école c'est catastrophique, parce qu'à force d'un discours toujours catastrophique sur l'école, on n'arrive plus non plus à convaincre les jeunes étudiants que c'est un métier formidable. Or, c'est un métier extraordinaire. Moi, ce que j'adorais quand j'étais
recteur...
C'est
compliqué de dire en même temps que les conditions du métier sont et d'entrer dans le métier sont difficiles, avec des salaires bas et beaucoup de solitude, et après de dire ah bah il faut convaincre les gens.
Mais encore une fois, il faut que la société prenne sa part, c'est-à-dire que je l'ai dit, hein, il faut sans doute augmenter les professeurs.
Alors qu'est-ce qui est si bien dans le fait d'être enseignant, d'après vous, Christophe Quereros ? Comment vous voyez la publicité du métier ?
Professeur, c'est un métier absolument extraordinaire. Moi, je prends toujours l'exemple, quand on voit un gosse qui réussit et qui sourit, qui a les yeux qui pétillent, c'est quand même une récompense exceptionnelle. Il y a peu de métiers qui donnent autant de satisfaction.
Faut-il orienter davantage les pratiques pédagogiques des enseignants, comme le voulait Jean-Michel Blanquer à l'époque où il était ministre, avec des livrets pédagogiques, des recommandations très précises, qu'il souhaitait plus ou moins transformer en passage obligé, en tout cas fortement conseillé, alors que les syndicats enseignants qui s'expriment sur la question, par exemple dans le premier degré, sont complètement contre, arguant de leur liberté pédagogique. Quel est votre point de vue ?
Alors, il ne faut pas caporaliser, bien entendu. Ça, c'est évident, c'est pas acceptable, ce n'est pas bien, et sans adhésion, on sait qu'on n'y arrive pas. Maintenant, moi, j'entends la liberté pédagogique, mais pour qu'il y ait liberté pédagogique, encore faut-il que les jeunes professeurs sachent exactement quelles sont toutes les méthodes qui existent, les méthodes efficaces, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, et ça, ils ne le savent pas. La plupart des professeurs, ils enseignent comme ils ont été enseignés. C'est aussi une des raisons des difficultés de l'entrée dans le métier, de perte de temps. On est tous passés par là. Comme professeur, on est obligé de tâtonner, alors qu'il y a quantité de méthodes qu'on pourrait apprendre, qu'on pourrait connaître et appliquer. Moi, je fais toujours le parallèle avec les études de médecine. Personne ne dit d'un médecin qu'il est caporalisé. Pourtant, il y a des protocoles. Qu'il faut suivre, qui fonctionne.
Vous croyez vraiment que la relation pédagogique est là?
Et ensuite, il y a quand il y a avec des patients un peu plus difficiles ou un peu plus en difficulté, il y a des protocoles élargis, il y a des réflexions. Moi, je crois vraiment que aujourd'hui, on n'est pas encore passé à la pédagogie expérimentale, si je puis me permettre. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour sortir d'un artisanat qui coûte beaucoup aux professeurs. Et je crois que donc, quand on parle d'investissement dans la formation initiale, c'est de cela dont on parle. C'est-à-dire que les professeurs aient plus d'outils. Donc vous parliez des livrets orange, vert, peut-être que ça peut apparaître comme maladroit, mais en tout cas, dedans, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui sont avérées scientifiquement. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, de l'autre côté, il faut de la formation continue. Il faut que les professeurs soient formés,
écouter. Sur l'école,
le fait s'écouter, que... échanger.
Et je vous écoute, Christophe Guerrero, pardon, c'est moi. Ça en dit long sur l'école, le fait qu'on se pose sans cesse cette question de la formation des enseignants, comme si on avait perdu en route bien ce modèle des vieilles écoles normales. Vous parliez de la formation, d'attirer d'autres publics, c'est peut-être en rémunérant les enseignants. Il faudra qu'on revienne sur cette question. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire a publié une conférence de consensus, c'est comme ça qu'il s'appelle leur rapport régulier sur les savoirs de l'école et les évolutions du monde, en se demandant s'il ne fallait pas bien réfléchir à ce qu'on apprenait, si ça avait un rapport avec le monde extérieur, si quelque part l'école ne manquait pas de sens, en ne donnant pas de sens au savoir en relation avec le vécu des élèves. Qu'en pensez-vous ?
Alors, La garantie d'avoir des enfants libres, c'est tout de même qu'ils maîtrisent d'abord les savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, l'arithmétique, les mathématiques. Maintenant, on le sait, il y a d'autres choses qui sont tout à fait essentielles pour évoluer dans la société. D'abord, il faut que les enfants soient affectivement en sécurité. Et il faut qu'il y ait de la coopération qui se développe le plus tôt possible. Là-dessus, nous ne sommes pas encore tout à fait à l'optimum, on va dire ça comme ça. Il faut encore poursuivre. Mais on revient à notre sujet du début, c'est-à-dire que comme on a une école qui fait le tri par les savoirs académiques, il n'y a pas beaucoup de place pour la coopération. Dans une logique de concurrence, de recherche des meilleurs. Et ça nous joue des tours.
Et d'élimination.
Ça nous joue des tours. Moi, je me suis quand même beaucoup interrogé. Le pays de Pasteur, le pays où on a des très grands laboratoires pharmaceutiques de rang mondial, pourquoi on n'a pas été capable de trouver un vaccin ? Après tout, il y a les Américains qui ont trouvé un vaccin, mais il y a aussi les Suédois avec les Anglais.
Alors moi, je me pose une autre question, c'est pourquoi il y a autant de gens anti-vax alors que
ils sont
bien passés par l'école et où on a appris les principes de la vaccination, comment elle avait été découverte par Pasteur, enfin comment ces principes avaient été découverts par Pasteur et ensuite appliqués, comment ça a pu sauver tellement de vies à travers le monde.
C'est une autre question, c'est une question aussi de recul un peu de l'esprit scientifique en France. Mais mon premier sujet n'était pas inintéressant non plus. Pourquoi au pays de Pasteur il n'y a pas eu de vaccin ? Moi, je crois que parce que en France, les questions d'ego, de concurrence, le fait qu'il faut arriver toujours le premier et seul, il faut un peu marcher sur l'autre pour arriver, ça a joué. À mon avis, c'est une hypothèse qui mérite d'être regardée de près en tout cas.
Christophe Guerrero, vous écrivez « En chaque Français sommeille un ministre de l'Éducation nationale ». Et chez vous, Christophe Guerrero, parce que moi je me souviens que Jean-Michel Blanquer avait écrit des livres hein, après avoir été numéro 2 du ministère, un peu programmatique. Est-ce que là, il n'y a pas un petit appel du pied pour
ce qui m'intéresse, moi,
d'autres
surtout,
fonctions.
Ce qui m'intéresse surtout, c'est de lancer le débat sur l'école au fond. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser les vraies questions aujourd'hui. Comment on peut améliorer les choses ? Comment on pourrait...
Moi, j'aimerais bien contribuer. Ce que j'aimerais bien. Ça vous permettrait
mais
il
faut aussi qu'on dépolitise la chose scolaire. Il y a qu'en France où c'est aussi politique la chose scolaire, mais dans le mauvais sens du terme. C'est une grande politique publique, bien entendu, mais il faut impérativement qu'on arrive à un consensus minimal sur l'école. Et c'est possible. Moi, c'est ce que nous avons réussi à Paris. Vous savez, un de mes motifs de fierté, c'est quand j'ai démissionné, j'ai eu une lettre de Valérie Pécresse et une lettre d'Anne Hidalgo. Elles ne sont pas tout à fait du même bord politique. Mais elles ont reconnu qu'on avait fait du bon travail en matière d'égalité des chances, parce que l'égalité des chances, c'est ni de droite ni de gauche.
Une académie où il y a énormément d'évitement scolaire, énormément de personnes qui ne vont pas dans les écoles publiques. Donc, la question
mais
ne
quand
se
même,
sera pas.
On n'a pas eu, il n'y a pas eu de fuite d'être dans le privé quand on a mis en place la réforme
avec,
de l'affectation
avec
en
cette
seconde
mixité,
à Paris.
Il y avait tellement de choses encore à dire, en particulier sur, sur le
sujet
lycée, Christophe Cairo, mais l'école, l'éducation nationale, c'est un sujet passionnant,
extraordinaire,
inépuisable.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait plus de professeurs, parce que dès qu'on s'y intéresse, eh bien, on s'aperçoit que c'est extraordinaire.
Mais vous pourriez retourner enseigner d'ailleurs.
D'ailleurs, je sortais là d'un cours à Sciences Po et je suis très heureux de voir qu'on a des jeunes de Sciences Po qui s'intéressent à l'école.
Merci Christophe Guerrero. L'école n'a pas dit son dernier mot, c'est publié chez Robert Laffont.